On se souviendra du succès de la série télé américaine 24 au début du siècle, dont l'intérêt portait essentiellement sur deux aspects. Le format sur 24 heures qui obligeait à baliser la narration de manière singulière et l'utilisation effrénée de la technologie du numérique. Or, apparemment, la série n'est plus regardable aujourd'hui. La technologie est tellement dépassée que les aspects dramatiques tombent dans la comédie burlesque. Déjà que la multiplication des coups de théâtre permettait de frôler le burlesque il y a 15 ans. Ce qui est valable pour une série télé l'est-il aussi pour une fiction littéraire? L'accélération du temps, la transformation de l'espace et la plongée dans la virtualité associée à la technologie numérique rend-elle caduque certains romans relativement récents? Certes, on relie Balzac ou Take Reed, Dickens ou Hugo, mais nous sommes conscients d'être dans un autre temps historique et cette distance permet justement une lecture intéressante. Ce n'est pas parce que les personnages se promènent en calèche plutôt qu'en tercelle que les romans ne sont plus lisibles. Cette journée vise à réfléchir sur le numérique dans le roman et ce que cela implique par rapport à l'imaginaire contemporain. Se pose dès lors la définition à donner au mot contemporain. Je ne veux pas m'étendre sur ce vaste sujet, sinon pour dire que j'aime bien la proposition de René Audet en introduction au livre « Enjeu du contemporain ». Quand il suggère qu'au lieu de l'approximation « début du contemporain », nous aurions intérêt à faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que le contemporain commence aujourd'hui, ce serait notre point de référence, et il s'agit alors de savoir à quand il remonte. Autrement dit, du moins ainsi que j'interprète sa suggestion, il s'agirait de se demander à quel moment nous passons de l'actualité à l'historicité. Aborder ainsi la question me paraît pertinent du point de vue du numérique, d'une actualité somme toute récente, mais tellement présente dans nos vies et en continuelle transformation qu'il semble de toute éternité, ce qui crée un effet de lecture particulier. La question que je pose dans le cadre de cette communication est la suivante. La nouveauté de la technologie numérique serait-elle à la fois trop loin et trop actuelle, trop associée à notre présent, trop rapidement transformée pour permettre aujourd'hui une relecture distanciée? Dans un livre de dialogue publié en 2009, « N'espérez pas vous débarrasser des livres », Jean-Claude Carrière et Umberto Eco rappelaient qu'un livre publié à la Renaissance est un objet qui peut encore être pris dans ses mains et lu. Alors qu'une foule de technologies liées à l'informatique apparues il y a 35, 30 ou 20 ans sont aujourd'hui complètement obsolètes. Il est vrai que quelqu'un qui a moins de 40 ans ne peut avoir qu'une connaissance archéologique des floppy disks, ces supports de stockage, disquettes minces, larges et molles qui m'apparaissaient au milieu des années 80, aussi stupéfiantes que le fait d'avoir vu enfant Apollo 11 se poser sur la Lune. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'adore exagérer. Pour examiner cette question, je me brancherai sur deux romans québécois publiés dans les années 80, « Programmeur à gages » de Jacques Bissonnette en 1986 et « Copie conforme » de Monique Larue en 1989. L'un et l'autre sont écrits au moment où l'ordinateur commence à se démocratiser, les années 84-87. Le rapprochement se fait d'autant plus qu'ils ont un certain nombre de points communs. Ils utilisent les codes du polar, s'ancrent aux États-Unis tout en laissant une place importante à Montréal. La remise en question de l'identité des principaux personnages est un thème central. Et, bien sûr, l'univers informatique est au cœur de l'intrigue, la justifie. L'intérêt pour moi est aussi lié au fait que j'ai écrit des textes sur ces deux romans au début des années 1990, à une époque où le post-humain Mark Zuckerberg n'était pas encore sorti de l'école primaire et n'avait donc même pas encore commencé sa métamorphose en machine. Il y aurait alors une sous-question angoissante pour moi à cette communication. Si les deux romans sont frappés d'obsolescence, mes lectures le sont-elles aussi? Et conséquemment, serais-je moi-même périmé? Stand by. Alors, je les résume d'abord succinctement. Premièrement, à gage, mon premier plan, Alain Bourque, qui travaille pour Data Security, petite compagnie de la côte ouest des États-Unis, spécialisée dans la sécurité des systèmes informatiques. Il fait partie, comme on l'apprend, je cite, de ces détectives industriels qui ont compris la mentalité de leur époque et ont délaissé le revolver au profit de l'ordinateur portatif. La compagnie est dominée par la personnalité de son principal actionnaire, Buddy Johnson, dont le nom est caricatural tant il évoque l'Amérique profonde. Johnson est d'une loyauté absolue envers son client, quel que soit le degré d'honnêteté de celui-ci. Un de ses clients, donc la Monnaie Transit International, dont le siège social se trouve à Montréal, traite de très grosses quantités d'argent de toute provenance et les transactions sont entièrement traitées par ordinateur. À la suite d'une fuite, on a volé des informations ultra confidentielles. La compagnie craint qu'on ait réussi à infiltrer son système informatique. Bourque est envoyé en éclaireur pour trouver l'erreur dans le système, si elle existe, et pour identifier la taupe, s'il y en a une. Enfin, il se retrouve dans un panier de crabes où des associés, membres de conseils d'administration et compagnies concurrentes fonctionnent sans aucun scrupule. Dans cet univers où le temps, c'est de l'argent, selon le vieil adage, l'information a acquis une valeur encore bien plus importante que l'argent. Copie conforme, de son côté, est centrée sur le personnage de la narratrice, Claire Dubé. Une semaine avant la fin d'un séjour de 6 mois à San Francisco, à Berkeley plus précisément, son mari, chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle et du langage des machines, travaillant un logiciel de traduction et invité à participer au séminaire d'un groupe de psycholinguistes, doit rentrer précipitamment à Montréal lorsque sa mère subit une grave opération. Laissant Claire leur jeune fils sur place, il lui demande d'aller chercher à son bureau une importante plaquette, l'équivalent d'une 60aine de disquettes, hein, quelle époque, qui contient son travail des 6 derniers mois. Mais Claire Dubé découvre le bureau vide. Dès lors, elle se trouve à son corps défendant au cœur d'une histoire de piratage informatique, surtout après la mort, sans doute l'assassinat, de Bob Mason, un homme très impliqué dans le monde informatique de la Silicon Valley et qui a travaillé avec son mari. Elle se trouve prise en tenaille entre d'un côté l'avocat Ronald Dorsey et sa sœur Bridget, propriétaire d'une compagnie d'informatique, et de l'autre l'ingénieur Diran Zarian, ex-mari de Bridget Dorsey, qui deviendra l'amant de Claire Dubé. Ronald Dorsey considère que la propriété informatique est un non-sens et que les logiciels devraient appartenir à tous, que le droit d'auteur ne peut plus avoir cours à l'ère d'Internet. Au-dessus de cette histoire plane l'ombre de Dashiell Hammett et du Maltese Falcon. J'ai toujours beaucoup aimé la formule de James Graham Ballard, le romancier, en préface à son roman Crash, préface dans laquelle il explique que son roman en est un de science-fiction, alors que rien n'explique cette orientation générique a priori. Il est pourtant très convaincant. Il écrit donc ceci dans sa préface: « La science et la technologie se multiplient autour de nous. De plus en plus, elles nous dictent les langages grâce auxquels nous parlons et pensons. Soit nous usons ces langages, soit nous restons muets. » Les romans dont j'ai résumé la trame semblent prendre en compte cette affirmation. Ils usent des langages de l'informatique pour s'inscrire dans leur temps. Un univers s'est éteint, un autre a surgi, auquel on ne peut échapper. Bref, il n'est plus possible de ne pas adhérer à l'univers numérique dont le cyberpunk est devenu l'emblème. Les deux romans, rappelons-le, sont contemporains du Neuromancer de William Gibson. Au cœur du monde nord-américain, la technologie accélérerait la chute d'un univers humaniste ancien et le roman doit adhérer au discours social ambiant. Encore faut-il s'entendre sur ce que signifient ces langages grâce auxquels nous parlons et pensons, pour reprendre Ballard, et voir dans quelle mesure cette adhésion peut avoir une dimension critique, ce qu'on peut espérer de l'imaginaire d'un romancier. J'aborde donc les romans dans cette perspective. Programmeur à gage après relecture n'est pas un mauvais roman, mais il apparaît pourtant par certains côtés bien daté. Le roman de Bissonnette rappelle le genre noir, né aux États-Unis, qui s'inspire du réalisme social en faisant une large place à l'action et à la violence et en s'appuyant sur la figure du privé. On y trouve une réflexion sur les programmes d'ordinateur qui prend parfois des dimensions didactiques, au point où on ne sait plus toujours si le polar n'est pas une excuse pour rendre compte des derniers développements de la technologie informatique et de ses effets sur la société postmoderne. C'est peut-être ce hiatus, l'écart entre les informations techniques et la réalité des personnages, qui apparaît le plus frappant à la relecture. Que le cadre de programmeur à gage soit celui d'un roman policier où une guerre sourde se manifeste entre des pouvoirs industriels n'est pas innocent. L'ordinateur a d'abord été un produit appelé à combler des besoins guerriers. Les premiers systèmes informatiques viables se développent en Angleterre pendant la Deuxième Guerre mondiale pour décoder les communications encryptées des armées allemandes, et aux États-Unis pour gérer le repérage radar des missiles ennemis. Il ne faut pas s'étonner qu'ils servent dans une société dominée par la suspicion, dans un univers qui est celui de l'espionnage industriel par le biais des ordinateurs. Dans Programmeur à gage, l'Amérique du Nord se traduit par un réseau de grandes villes, Los Angeles, Boston, New York, Dallas, Montréal, forment des repères, des plaques tournantes d'où l'information circule. Il n'y a plus d'espace intermédiaire et la temporalité est bouleversée. Symptomatiquement, Burke voit débarquer son patron dans le lobby de son hôtel de manière impromptue, alors que le lecteur le croyait encore en Californie. Les gens apparaissent et disparaissent, surgissant lorsque le besoin s'en fait sentir, comme si les distances ne signifiaient plus rien. Nous ne sommes plus, à première vue, ou du moins à l'époque de la sortie du roman, j'insiste sur cette précision, dans le monde sensible, empirique, qui formait naguère l'univers social auquel l'individu s'identifiait. L'environnement tel qu'il se présente dans Programmeur à gage est incarné par les modes de transmission de l'information et les aéroports. La précision des discussions techniques, le luxe des détails sur la façon d'entrer en infraction dans un ordinateur ou de protéger celui-ci, la manière dont l'intrigue s'ancre dans le monde informatique, tout cela parvenait assez bien, je crois, en 1986, à masquer la faiblesse relative, disons, du reste. Disons-le ici, Bissonnette utilise les codes traditionnels du polar sans les remettre en question en fonction des effets sociaux, psychologiques, ontologiques de l'univers numérique. Il ne fait qu'intégrer l'informatique dans une intrigue classique. On constate ainsi la présence de personnages assez stéréotypés, à la langue elle-même assez stéréotypés. Comme tout polar correctement écrit par quelqu'un qui connaît bien le genre, on a de nombreux échanges à la Sue Hemingway, hein, vous savez, ces échanges virils entre hommes, en temps laconique, où on en dit le moins possible, mais où le narrateur, hélas, et en plus, explique juste un peu trop ce qu'il faut entendre de ce qui n'est pas dit dans ces dialogues souvent artificiels, des choses qu'on ne voulait pas se faire expliquer parce qu'on avait tout de même trop compris déjà. Et puis, il y a évidemment beaucoup de scotch, quelques hommes qui roulent des mécaniques, quelques femmes qui se rapprochent de la femme fatale, et ces formules un peu prévisibles, je cite, « J'allais prendre une bière à la cuisine, malgré l'obscurité, je la débouchais facilement, je commençais à en avoir l'habitude, ah, la solitude du privé. » Il en résulte un travail formel d'un intérêt relatif que les habiles réflexions sur l'informatique ne cachent pas ou ne cachent plus. L'importance des échanges entre individus par le biais de l'écran, cet intérêt obsessionnel des personnages pour le fonctionnement des machines et leur détournement, tout cela donnait l'impression, du moins était-ce que mien, il a plus de 25 ans, d'une métamorphose identitaire. Travaillant dans les bureaux de la Money Transit International, souvent dans la salle des machines, Alain Bourg donne l'illusion qu'il est lui-même issu des appareils qui l'entourent. Participant de plein pied à un nouveau monde communicationnel, l'enquêteur est façonné par celui-ci autant qu'il le façonne. Mais si on pouvait ressentir déjà des effets de l'univers numérique, à l'époque, à la sortie du roman, atrophie de l'espace, modification du rapport au temps, qui modifiait le tempo du roman, fondamentalement, ça ne change ni sa structure, ni la psychologie des personnages. Et je dirais que l'investissement de l'auteur dans son traitement de l'univers informatique marque un net décalage avec son investissement dans le traitement des personnages qui ne sont pas à la hauteur des transformations qu'on pourrait attendre. Le temps me semble avoir eu des effets beaucoup moins négatifs sur Copie conforme de Monique Larue. Évidemment, la nouveauté technologique, le high-tech de la fin des années 80, apparaît à mes égards bien banale aujourd'hui. Mais d'une part, c'est quand même intéressant de voir comment, de multiples façons, cela parvient à avoir des effets sur la manière dont les individus se comportent dans le roman. D'autre part, c'est en même temps une radiographie d'époque. En soi, ce n'est pas plus dérangeant que de lire qu'un personnage d'un roman de Diderot écrit une lettre avec de l'encre et une plume plutôt que d'envoyer un texto. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de voir comment la réalité numérique permet de poser de manière originale des questions qui ébranlent l'identité du sujet et son rapport au monde. Pour ne pas prendre trop de temps, je l'énoncerai à partir de deux points qui me paraissent centraux pour mon propos. Le premier concerne la difficulté à démêler le vrai du faux et à s'ancrer dans le réel. Je l'ai dit plus tôt, Claire Dubé se trouve soudain prise au cœur d'une histoire de piratage informatique qui la dépasse et provoque chez elle une perte de repère. Cette perte de repère est sans cesse associée à la réalité du numérique et au monde dans lequel elle se trouve, un univers qui n'est pas le sien, la région de San Francisco, l'empire du faux et de l'hyper-réalité, comme l'avait bien démontré de manière assez comique Umberto Eco. La guerre du faux date, je vous rappelle, de 1985, donc c'est vraiment la même période. On connaît la formule de Stendhal qui définissait à sa manière le roman réaliste. Un roman est un miroir que l'on promène le long de la route. S'inscrit plutôt en creux tout au long du roman de Monique Larue la question suivante, qu'est-ce que le réel à l'ère du numérique? La perte de repère de Claire Dubé, liée à une situation conjoncturelle pour elle, se superpose à une perte de repère davantage structurelle dans un univers qui, ontologiquement, est en train de basculer. L'ère du numérique n'est pas qu'un ajout technique au monde, c'est une transformation radicale de celui-ci qui est en train de se produire. Je dirais d'abord que c'est cette habile superposition d'une situation subjective et de modifications objectives face aux effets du numérique, qui permet au roman d'avoir une portée philosophique encore valable aujourd'hui, une puissance narrative. L'habileté de la narration tient aussi au rôle accordé aux villes. San Francisco, dans laquelle la narratrice se trouve dans une situation angoissante, et Montréal, où elle vit, qui, dans cette mise à distance, apparaît comme un lieu fantomatique. Dans la réalité de Claire Dubé, Montréal est à la fois une ville absente, parce qu'elle est avalée par la cité américaine dans laquelle elle habite. Montréal si proche et si différente à la fois d'une grande ville états-unienne. Donc, à la fois une ville absente et inévitable, car c'est pour Claire Dubé son point d'ancrage, alors qu'elle saisit mal les tenants et les aboutissants de ce qu'elle vit, en pleine crise identitaire. On aura rarement lu un roman avec autant de points d'interrogation, c'est un symptôme. Bref, le déplacement géographique provoque une altération de la perspective qui ébranle jusqu'aux plus intimes certitudes, jusqu'à la raison. Et elle s'accroche souvent à la raison, je cite deux passages, « Jamais le petit fil de la raison ne m'avait paru plus précieux. Un fil de plus en plus ténu me reliait au reste de la vie. » Il ne faut pas s'étonner que son fils de 5 ans, qui lui permet de garder contact avec les aspects les plus tangibles et pratiques de la vie, se prénomme Philippe et qu'elle l'appelle toujours Phil. Il ne faut pas s'étonner non plus qu'elle souligne que sa fameuse plaquette qu'elle tâche de récupérer n'est, je cite, « pas plus gros que le discours de la méthode », lié justement avec le modèle de la raison et qui peut renvoyer une certaine stabilité du réel. Conserver le fil de la raison implique aussi de se rappeler, de s'appuyer sur la mémoire. Or, le télescopage aux deux types de mémoire forme, pourrait-on dire, le nœud du roman. Celle de l'ordinateur, objectivée dans des dispositifs automatiques, détachée du corps des individus et des habitudes collectives, et celle subjective, qui façonne le rapport d'un individu au monde. S'accrocher au réel, c'est s'accrocher à sa mémoire, à son passé, à son histoire, face à un environnement justement modifié par l'ordinateur et le sens nouveau que suggère maintenant le mot « mémoire ». Alors, ce que je viens de présenter concernait le premier point que je voulais soulever, c'est-à-dire globalement le sujet de la narration. Le deuxième concerne cette fois la forme du roman. Assez classique en apparence, elle permet de repenser autrement les débats au cœur de cette intrigue informatique. Alors, je l'ai mentionné plus tôt, pour Ronald Dorsey, la propriété informatique est un non-sens et le droit d'auteur ne peut plus avoir cours à l'ère d'Internet. Ce qui se décline aussi à travers le roman, c'est l'idée d'originalité et le droit d'un individu de revendiquer la propriété d'une idée. Il y a une réflexion, à partir de l'ordinateur et de l'accès à de multiples réseaux, qui s'entrecroise et interroge non seulement ce qu'on nomme mémoire, mais aussi langage, pensée, et là je crois que je me trouve à revenir sur des discussions qu'on a eues après la présentation de Jean-Jacques Pelletier. Quelle est la différence entre le cerveau humain et celui d'une machine? C'est un vieux problème qui enfin inscrit le sujet de l'ordinateur et du numérique dans la filiation de la création des automates, qui remonte au moins jusqu'à l'Iliade avec Héphaïstos. Mais évidemment, le cas de l'ordinateur est singulier. Réseau enchevêtré, errance du langage qui se rapproche, si l'on veut, de la manière de concevoir les idées dans la pensée. Quand on pense, rien n'arrête la pensée, personne n'a de droit sur celle-ci. Si le réseau hypertextuel fonctionne de manière similaire, qui possède les droits sur quoi? L'hypertexte devient métaphore de la notion de valeur. Qu'est-ce qui vaut quelque chose? Qu'est-ce qui est neuf, original? Qu'est-ce qui est réel, virtuel, copie? Les frontières se brouillent et tout au long du roman, les seules affirmations tranchées portent sur le fait que rien ne paraît authentique. Mais l'intérêt tient aussi au fait qu'alors même que ces questions se posent dans la diégèse, elles se traduisent dans la structure du roman qui est une reprise du Maltese Falcon de Dashiell Hammett décalé. Je n'ai pas le temps, la liste serait trop longue, mais croyez-moi si je vous dis que dans tous ces aspects, la dynamique de copie conforme s'appuie sur le roman de Hammett, qui, je le rappelle, est justement la découverte d'un faux, hein, une statuette finalement sans valeur pour laquelle on aura beaucoup de tué pour rien. On peut certes parler d'intertexte, mais dans le contexte, on peut aussi parler d'un mode d'exploration de la réalité san-franciscaine et des débats sur réel et virtuel causés par l'ordinateur à partir d'un autre roman, comme s'il s'agissait de dédoubler les capacités du modèle numérique, modèle plastique, dynamique, doué d'une certaine autonomie d'action et de réaction, de feedback, et qui, à la fin des années 80, en était encore à ses balbutiements en regard de ce que nous connaissons maintenant. Pour conclure et résumer rapidement, au fond, si je compare les deux romans, le problème que moi je vois dans la relecture de Programmeur à gages tiendrait à ce que son auteur se sert de l'informatique comme thème pour écrire un polar somme toute classique, daté à cause de son sujet, en fait de quoi sa valeur devient essentiellement historique, anthropologique. Chez Monique Larue, c'est plutôt l'inverse. Il s'agirait de voir comment la littérature est transformée par l'informatique qui modifie notre façon de penser le monde. Ainsi, des thèmes, des formes de toute éternité prennent une dimension particulière dans ce cadre discursif. Et au bout du compte, je pense que je ne suis pas totalement périmé. Merci.